Et à 22h sur France Culture, le journal est présenté ce soir par Thomas Larabie. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Le fauteuil de maire de Marseille est vacant. Michel Rubirola, élu cet été à la tête d'une union des gauches, démissionne de son poste pour raison de santé. Elle souhaite que son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, lui succède. Nous y reviendrons avec notre invité, le sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, dans un instant. En ce premier jour officiel de déconfinement, des milliers de personnes se sont réunies dans la rue cet après-midi pour dénoncer à nouveau la fermeture des lieux culturels. Une réouverture initialement prévue aujourd'hui et qui pourrait ne pas intervenir avant le 7 janvier. Et puis, 7 bracelets anti-rapprochement mis en place en l'espace de 3 mois. C'est le triste bilan provisoire de cette mesure phare du Grenelle contre les violences conjugales. Cécilia Arbonin nous expliquera les raisons de ce démarrage poussif. Coup de tonnerre à Marseille. Michel Rubirola, première femme élue maire de la ville en juillet dernier, quitte son poste. Une décision liée officiellement à des raisons de santé. À la tête d'une union de gauche fortement teintée d'écologie, Michel Rubirola avait mis fin à 25 ans du règne de la droite et de Jean-Claude Gaudin dans la cité phocéenne. Et désormais, la future ex-maire dit vouloir laisser son fauteuil d'édile au socialiste Benoît Payan, lui qui était jusqu'ici son plus proche collaborateur, Mathilde Vinceneux.
Oui, Michel Rubirola l'a martelé, hein. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Elle travaille en collectif depuis le début avec une équipe élue par les Marseillais. Une équipe qu'elle ne compte pas quitter, hein. Vous l'avez dit, elle veut continuer son binôme avec son premier adjoint Benoît Payan, mais un binôme inversé. Elle le répète, elle est médecin et sa ville endettée au bord de l'effondrement a besoin d'urgentistes. Et le bon profil pour être en première ligne, c'est Benoît Payan, selon elle. Elle salue son énergie, hein, son expérience. Benoît Payan, bien connu, hein, du paysage politique marseillais, formé dans les socialiste. Il a siégé 6 ans, hein, dans l'opposition. Il l'a remplacé aussi sur le siège de maire. Elle reconnaît, hein, que cette décision peut surprendre, peut déranger aussi, mais tant mieux, c'est le choix d'une militante et d'une femme libre, dit-elle, au nom de l'intérêt général. Et si cette inversion interroge, il ne pose pas de questions au sein de la majorité, affirme la maire. Même si Benoît Payan avait pourtant divisé, hein, suscité le blocage d'une partie de l'Union, notamment des Insoumis au moment de la campagne. Alors va-t-il faire consensus? Les élus devront voter lundi au prochain conseil municipal. Dans l'opposition, on parle déjà de tromperie.
Les précisions de Mathilde Vinceneux depuis Marseille. Avec nous pour en parler ce soir, le sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous avez été maire de la 7e circonscription de Marseille entre 2014 et 2017. À nouveau candidat cet été, vous avez été battu de justesse. Vous avez donc suivi cette campagne avec de manière très proche. Comment accueillez-vous cette démission de Michel Rubirola ce soir?
Eh bien, écoutez, on va de rocambolesque en rocambolesque. Oui, une élection de Madame Rubirola qui s'était faite dans la douleur des négociations d'arrière-boutique, d'état-major dans le dos des Marseillais. Eh bien, sa démission est du même ordre dans le dos des Marseillais, avec des désignations de successeurs, alors qu'il y en a d'autres, il pourrait y en avoir d'autres, et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Les Marseillais ont quand même voté pour que leur maire, après que ça plaise ou pas, moi j'aurais préféré que le vote soit différent, mais c'est comme ça. Ils ont voté pour Madame Rubirola, pour qu'elle devienne maire, pour qu'une écologiste devienne maire, et pas qu'un monsieur Payan, socialiste, ne la remplace sur une sorte de coup de force. Donc on est là en plein déni de démocratie, raison pour laquelle moi je ne me contente pas d'un vote par les élus au conseil municipal pour élire un nouveau maire, mais j'en appelle à un retour aux urnes des Marseillais. Cette crise, parce que c'est quand même une crise politique, ne peut être résolue que par l'expression démocratique, par le biais du retour aux urnes de l'ensemble des Marseillais.
Donc vous ne faites pas confiance au conseil municipal qui doit avoir lieu lundi prochain?
Ça va être... Un nouvel épisode dans la magouille, dans les ententes, dans les négociations d'état-major entre le Parti socialiste, le LFI. D'ailleurs, M. Mélenchon, je ne serais pas étonné qu'il soit encore à la manœuvre, ce qu'il avait déjà exigé lors de l'élection de Mme Rubirola, que justement, que ça ne soit pas un socialiste. Il avait pesé de tout son poids, si je puis dire, parisien, et dogmatique et idéologique. Il avait dicté sa loi à Marseille. Et je ne vois pas pourquoi il n'essaierait pas à nouveau d'imposer sa vision personnelle au détriment de l'intérêt général, au détriment des Marseillais. Donc tout ça est tout à fait insupportable. Il faut que les Marseillais s'expriment et qu'ils apportent leur soutien à tel candidat ou à tel autre. des candidats qui ont envie d'être maire, qui est la niaque, qui est une détermination, qui est une passion pour cette ville, et pas pour ce qui aura été finalement une fake news. Avec tout le respect que je dois bien sûr à Madame Rubirola, mais elle a été un écran de fumée qu'on a appelé Printemps Marseillais, derrière lequel, une fois que cet écran de fumée a été dissipé, eh bien les écuries de la gauche sont toujours là, avec les mêmes méthodes que d'arrangement pour obtenir des postes pour quelques-uns au détriment de l'intérêt général. Et ça, on nous avait promis que ça serait fini, et c'est pas le cas, et c'est très dommage. Donc, retour aux urnes citoyens marseillais.
Vous appelez donc un nouveau scrutin municipal. Est-ce que c'est réellement une demande qui a des chances d'aboutir, selon vous ?
Et sincèrement, bien qu'on soit en période de Noël, je ne crois pas trop au Père Noël politique, mais c'est une hypothèse. Cela existe dans le code électoral. Donc, s'il y avait de la part de ceux qui aiment Marseille, qui sont élus, une vraie volonté de changement, on pourrait procéder à cette conclusion. Alors, je sais que c'est pas simple. Il faut que les conseillers, pour un tiers d'entre eux, démissionnent, de manière, comme le prévoit la loi, de manière à ce que, obligatoirement, une nouvelle élection puisse se dérouler. Mais connaissant la droite marseillaise, enfin celle qui se fait appeler ainsi et qui est à l'image d'ailleurs de la droite au niveau national, je pense qu'on est déjà en train de rappeler Madame Galli, comme ils ont pu le faire avant l'élection de Madame Rubirola. Donc je ne crois pas en la sincérité du clan de Madame Vassal.
Tout autre sujet, ce mardi c'est la fin officielle du deuxième confinement, on passe à un couvre-feu de 20h à 6h. On sent dans la population, notamment la population jeune, une certaine impatience, forcément parfois même un certain agacement face aux mesures de restriction. Je pense à cette fête clandestine qui a rassemblé plus de 300 personnes à Marseille ce week-end. Vous portez quel regard, vous, sur la gestion de cette sortie progressive du confinement ? Est-ce que vous partagez cette impatience ?
La sortie est vraiment très progressive. Moi, je n'en peux plus, quoi. Je suis à l'image de quand même la majorité des Français. Cela fait 6 mois qu'on est confiné. Pour quel résultat ? On voit bien que c'est une stratégie qui n'est pas la bonne, que de restreindre les libertés individuelles, les libertés économiques, les libertés démocratiques, parce que le Parlement est complètement méprisé depuis le mois de mars, pour les résultats, encore une fois, que l'on connaît, c'est-à-dire mauvais. Comment dire, je n'appelle pas à des rassemblements de masse, mais disons que après des mois de confinement, des mois de restriction de liberté, je pourrais être amené à les comprendre. Voilà.
Merci Stéphane Ravier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Moi, je veux mourir sur scène. C'est un des slogans choc entendus cet après-midi place de la Bastille à Paris où se sont rassemblés plusieurs milliers d'acteurs de la culture. Ils dénoncent la décision du gouvernement de décaler une nouvelle fois la réouverture des cinémas, théâtres et autres musées. Une réouverture initialement prévue aujourd'hui. La date du 7 janvier est désormais évoquée sans plus de certitude dans un milieu qui en aurait bien besoin. Frédéric Morin est président du syndicat national des scènes publiques. Il était dans le cortège parisien.
Nous sommes des services publics, nous sommes du secteur subventionné. La continuité du service public des arts et de la culture est impérieuse dans des périodes de crise, de la même façon que l'éducation nationale, que les services de santé ou que les services sociaux. Nous faisons partie de l'Alliance républicaine et ça, on ne comprend pas pourquoi on nous empêche de réouvrir. Si les idées ne passent pas par l'émotion, si on ne continue pas l'émancipation de chacun, vers quel monde allons-nous ? Et on se pose aujourd'hui la question, quel est le choix de cette présidence de la République au regard du pacte républicain et de ses acteurs importants que sont les artistes.
Pourtant, c'est un président qui a fait du théâtre.
Bien, alors interpellons-le, rappelons-lui sa jeunesse, rappelons-lui ses temps d'épanouissement qu'il a eu au travers de ça, les émotions que ça a générées, la force que ça lui a peut-être donnée dans sa construction d'individu.
Et ce soir, 5 théâtres parisiens saisissent en urgence le Conseil d'État via un référé liberté dans l'espoir d'annuler la décision du gouvernement. La colère qui gronde également dans les écoles après la proposition de Jean Castex de ne pas envoyer les enfants en cours ce jeudi et ce vendredi pour limiter les risques de contamination à Noël. Une proposition qui suscite de vives critiques, notamment selon les syndicats, en raison de son incohérence avec un protocole sanitaire dans les écoles présenté jusqu'ici comme très efficace. Alors que l'annonce d'un référendum sur le climat par Emmanuel Macron reçoit un accueil mitigé, une démarche allègrement taxée de coups de com' par ses détracteurs, le Haut Conseil pour le climat lance une nouvelle pierre dans le jardin de l'exécutif. En effet, 70% des mesures du plan de relance de l'économie ne vont pas dans le sens du changement climatique, selon cette instance indépendante. La majorité de ces mesures contribue à poursuivre la production et la consommation sans conditionnalité, ce qui ne permet pas d'infléchir les émissions, constate le Haut Conseil, qui pointe également du doigt des montants importants dédiés au secteur de l'aérien et de l'automobile, très intensif en gaz à effet de serre, avec des contreparties environnementales que le Haut Conseil au climat juge insuffisantes. C'était une des promesses phares issues du Grenelle contre les violences conjugales. Le bracelet anti-rapprochement pour tenir à distance des conjoints et des ex-compagnons violents est désormais généralisé à tous les tribunaux de métropole et d'outre-mer. Déployé au départ dans 5 juridictions de France, cet outil, plébiscité depuis plusieurs années en Espagne, semble avoir du mal à s'implanter chez nous. En effet, depuis son lancement le 24 septembre, la justice a ordonné la pose de 7 bracelets. 7 bracelets seulement, serait-on tenté de dire. Face à ce démarrage poussif, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a écrit aux juges pour qu'ils utilisent davantage ce dispositif chargé d'éviter harcèlement et féminicide. Les précisions de Cécilia Arbonin.
C'est un courrier de 3 pages aux allures de piqûre de rappel. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'adresse aux magistrats avec gravité. Il écrit « Cela me paraît crucial d'envisager le bracelet anti-rapprochement pour assurer une protection accrue des victimes de violences conjugales. » Une analyse partagée par la procureure de la République d'Angoulême en Charente, Stéphanie Aouin.
C'est dans la phase post-sententielle qu'on a mieux trouvé les profils qui se prêtaient au bracelet anti-rapprochement, c'est-à-dire le tribunal correctionnel avec un multirécidiviste de violence conjugale dont on était quasiment certain qu'en sortie de détention, il ne tiendrait pas forcément ses interdictions d'entrer en contact avec la victime. Le second bracelet qui a été prononcé, l'a été par un juge de l'application des peines, également dans le cadre d'une sortie de détention.
Un millier de bracelets anti-rapprochement ont été envoyés aux tribunaux judiciaires, mais pourquoi reste-t-il dans des cartons, s'interroge maître Isabelle Steyer, avocate à Paris.
C'est un outil qui demande du sur-mesure. Mais si effectivement on a juste le matériel et pas l'intendance, ça va poser problème. On a eu un Grenelle pour cela et on n'a aucune utilisation de ce bracelet. Donc je suis vraiment un petit peu désespérée, oui. Parce que les hommes violents qui n'arrivent pas à accepter la séparation et qui vont suivre leur femme, où qu'elle soit, c'est un outil qui leur permet de ne pas céder à leurs démons. Parce qu'on parle quand même de mort de personnes, là.
En 2019, en France, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou par leur ancien compagnon.
Les précisions de Cécilia Arbona. Le parquet requiert la perpétuité contre Ayoub El-Kazani, le tireur surarmé que des passagers et notamment des militaires américains en vacances avaient réussi à maîtriser à bord du Thalys Amsterdam-Paris en août 2015. Par ailleurs, des peines allant de 8 à 30 ans de prison ont été requises à l'encontre des 3 autres accusés soupçonnés de l'avoir aidé. La Hongrie durcit sa législation contre la communauté LGBT. Le parti nationaliste du Premier ministre Viktor Orban a voté aujourd'hui des lois en rafale et notamment un amendement constitutionnel qui limite les droits des homosexuels et des transgenres. À Budapest, Florence Labrouillère.
La mère est une femme et le père est un homme. Ces mots seront désormais gravés dans la constitution hongroise. L'amendement à la constitution affirme aussi que le genre d'un individu est uniquement celui qui est défini à la naissance. Conséquence, une personne transgenre ne pourra plus faire changer ses papiers d'identité pour y inscrire son nouveau prénom. Il faut protéger l'enfant, justifie la droite ultra-conservatrice de Viktor Orban. En clair, il faut l'empêcher d'avoir envie de changer de sexe. Comme le dit la ministre de la Famille, Katalin Novak, un petit garçon doit avoir le droit de grandir comme un garçon et une petite fille doit pouvoir grandir comme une fille. La ministre est aussi à l'origine d'une autre loi votée aujourd'hui. Désormais, seuls les couples mariés pourront adopter des enfants. Jusqu'ici, les homosexuels n'avaient pas le droit de se marier, mais en tant que célibataires, ils pouvaient adopter. La nouvelle loi les en empêche. C'est un jour noir pour la communauté LGBT et pour les droits humains, dénonce le bureau d'Amnesty International en Hongrie. Il n'y a plus de migrants aujourd'hui dans le pays, alors le gouvernement Orban nous choisit comme bouc émissaire, affirme l'association Hatter, qui défend les minorités sexuelles. Certes, il est possible de contester ces lois devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais une action en justice coûte très cher, et il faut patienter plusieurs années.
Florence Labruyère, depuis Budapest et aux États-Unis, selon plusieurs médias américains, Pete Buttigieg, 38 ans, et révélation des primaires démocrates, sera le ministre des Transports de l'administration Biden. Il deviendra ainsi la première personne ouvertement LGBTQ nommée à une position permanente au sein du cabinet présidentiel, si le Sénat, bien sûr, entérine ce choix. Par ailleurs, au lendemain des votes des grands électeurs, Joe Biden est félicité ce soir pour sa victoire par le président brésilien Jair Bolsonaro, ainsi que par le chef de file des Républicains au Sénat américain, Mitch McConnell. Un mot de la météo de demain avant de nous quitter. Quelques gouttes de pluie sur la côte atlantique, du Cotentin jusqu'à la Gironde, du soleil partout ailleurs. Côté température, comptez 9 à Strasbourg, 10 à Paris, 13 à Lyon et Bordeaux, 15 à Marseille et 16 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez. À la technique, Sylvain Latu.